finit là notre série sur les scènes de prière biblique. Et comme nous sommes en étude biblique le mercredi soir, j'ai voulu aborder un passage qui pourrait être considéré comme un passage, on va dire, compliqué, mais bon, il n'y a pas... On va juste clarifier un passage biblique qui se retrouve dans la première épître de Pierre. On va lire ça ensemble. 1 Pierre, à partir, donc chapitre 3 et au verset 17. 1 Pierre, chapitre 3, verset 17. Voilà ce qu'écrit Pierre. Car il vaut mieux souffrir. Ça commence bien. Bon, je vous rassure, c'est toute la thématique de l'épître de Pierre. C'est vraiment la souffrance. Il en parle au chapitre 1er, il en parle au chapitre 2, il en parle au chapitre 3, il en parle au chapitre 4, il en parle au chapitre 5. Pierre parle véritablement à des chrétiens qui sont persécutés et qui souffrent à cause de leur foi. Et donc, il les encourage. Il va même dire, ne trouvez pas étonnant d'être dans la fournaise de l'épreuve. Donc, il est vraiment dans une logique où il veut encourager les chrétiens à supporter la souffrance. Donc, car il vaut mieux souffrir. Si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien... qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Et il a été mis à mort quant à la chair, et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel... aussi, il est allé prêcher aux esprits en prison qui, autrefois, avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Un peu compliqué, hein, Pierre, là, hein ? Il nous parle de la souffrance et après, verset 18, il va nous parler de la mort et de la résurrection de Jésus. Après, au verset 19, 20, il va nous dire que Jésus a prêché à des esprits qui sont en prison en faisant référence à l'incrédulité des gens du temps de Noé, donc des années après. Après, tout de suite après, il va parler du baptême, et après il va parler de la place de Jésus au ciel, et après il retombe sur ses pattes et il nous parle de la souffrance. On pourrait se dire, ça n'a ni queue ni tête, Pierre. Tu déraisonnes. En fait, c'est là qu'il faut que nous comprenions. En fait, l'auteur, là, verset après verset, passe d'une idée à une autre, mais pas comme ça, pas de manière complètement irréfléchie ou déraisonnée, mais en fait, à chaque fois, il y a une connexion, un mot qui fait connexion d'une pensée à une autre. Je vais prendre un exemple. China, j'ai besoin de toi. Si je te dis soleil, tu penses à quoi ?
Aaron.
À quoi ?
Aaron.
À Aaron. C'est ça ?
Aaron,
pardon. Maintenant, si je te dis rond, tu penses à quoi ? Première chose qui vient à l'esprit. Ballon. avec le même rond. Alors ça n'a pas marché, hein. Normalement, on aurait dû dire un truc. On peut essayer avec quelqu'un d'autre. Mais vous avez compris le système. Je lui ai dit soleil, elle a pensé à rond. Et à rond, on peut penser, alors moi j'avais roue qui venait à mon esprit, mais voilà. Et en fait, le même mot a pu l'amener à une pensée avant et une pensée après. Et c'est exactement le même principe dans ce que nous avons vu là. L'exercice donc, pour bien comprendre ce passage, l'exercice consiste à saisir le point, le mot qui fait connexion entre une pensée à une autre. Ces mots-là, ils sont dans le texte, on ne va pas les inventer. Et quand il nous est dit, par exemple, au verset 17, « Il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant ce qui est bien, qu'en faisant ce qui est mal. » Évidemment, qui est le meilleur exemple de celui qui a souffert injustement? C'est Jésus, c'est une évidence. Et donc, évidemment, en parlant de ça, il vaut mieux souffrir en faisant le bien plutôt qu'en faisant le mal. Et bien oui, l'exemple suprême de celui qui a supporté sur lui les coups, les injures, alors que lui-même ne les méritait pas, c'est évidemment Jésus. Et en pensant à Jésus, bah tout de suite, évidemment, en pensant à la souffrance et à Jésus, bah on comprend bien qu'il va évoquer la croix. C'est la croix qui évoque la souffrance de Jésus. Ainsi, le mot de connexion entre le verset 17 et le verset 18, c'est la souffrance. La souffrance dont Jésus est l'exemple et la souffrance qui l'a mené à la croix. Et en pensant à la croix, spontanément, Pierre parle de la résurrection. En fait, nous, ça ne nous est pas très habitué. Mais au chapitre 4 du livre des Actes et au verset 33, Actes 4, 33, pour ceux qui prennent des notes, il est écrit que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. En fait, à l'époque, dès que les gens pensaient à la croix, dès que les croyants, dès que les apôtres prêchaient la croix, tout de suite, ce qui les mettait en force, ce qui les stimulait, c'était pas seulement que Jésus soit mort, mais qu'il soit ressuscité. Alors bien sûr, il y a eu la souffrance, bien sûr Jésus est mort, mais ce qui paraissait le plus extraordinaire, et ce qui est le plus extraordinaire d'ailleurs, ce n'est pas qu'il ait souffert, ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'il soit ressuscité. Et quand nous parlons de notre Seigneur Jésus, oui, nous devons dire, oui, Jésus est mort pour tes péchés, il a subi ça pour nous. Mais il est ressuscité, il a vaincu, il a détruit, il a anéanti, il est à la droite du ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit. La résurrection, c'est vraiment la force de la croix. Parce qu'il y a plein de gens qui sont morts à la croix, il y a plein de gens qui souffrent tous les jours. Encore hier, il y a des gens qui sont morts, mais combien sont ressuscités? Aucun. Il y a beaucoup de gens qui meurent, mais qui a donné sa propre vie? Et Jésus est celui qui est ressuscité. Alors, en pensant à la croix, effectivement, Pierre pense tout de suite à la résurrection. Mais, et c'est la pensée de Pierre, il est ressuscité par le Saint-Esprit. Et ça, c'est lui qui le précise. À la fin du verset 18, il a été mis à mort dans sa chair. Le corps de Jésus est mort et rendu vivant quant à l'esprit. Et ce mot esprit, c'est ça qui va faire la connexion avec le verset qui suit. Regardez ce qui est écrit. Il est rendu vivant quant à l'esprit dans lequel il est allé prêcher. Alors là, c'est bizarre comme expression. Mais en fait là, Pierre, en pensant au mot esprit et à la résurrection de Jésus, il nous explique là que c'est en esprit que Jésus est allé prêcher. C'est bizarre hein, de dire ça. Mais c'est exactement quand il est écrit dans lequel nous pourrions dire sous la forme. En fait, c'est ça. Il est allé prêcher sous la forme de l'esprit. À qui il a prêché? Il a prêché aux esprits en prison. Et là, on dit, waouh, je sais ce qu'est un esprit, je sais ce qu'est la prison, mais c'est quoi des esprits en prison? Alors, qu'a fait Jésus? Ce passage-là, il y a deux manières de le comprendre. Le fait que Jésus soit allé prêcher aux esprits en prison qui, autrefois, avaient été incrédules lorsque la patience de Noé se prolongeait au jour de Noé, la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction. Vous vous rappelez le temps de Noé? Je rappelle rapidement. Un homme, mais des milliers d'années avant Abraham, vivait dans un endroit. Et il nous est dit qu'à l'époque, le mal s'était répandu et que Dieu s'était vraiment, était vraiment attristé de la conduite des hommes. Il vivait dans l'impiété, dans l'insouciance. Il faisait chaque jour le mal. Et Dieu voulait juger les hommes. Il a prévenu Noé, qui était juste selon son temps. Et il a prévenu Noé, lui disant, « Construis-moi un bateau. Tu mettras toute ta famille. » Et le bateau était suffisamment pour accueillir tout le monde. Tous ceux qui entendraient Noé dire, « Repentez-vous, changez de comportement. Et je vais envoyer une pluie. Ceux qui seront dans le bateau seront sauvés. Ils ne périront pas, mais les autres... » Tant pis pour eux, ils ont fait le choix. Alors Noé, il a bâti son bateau, imaginez un grand paquebot en plein milieu de la forêt. Tout le monde l'a pris pour un charlot, un fou, un insensé. Pourtant, c'était bien lui qui avait raison. Et le déluge est venu et a tout anéanti. Et Pierre va nous parler de ces gens-là qui sont très loin de notre histoire historique. Deux manières de comprendre ce passage-là. En parlant de l'esprit, Pierre veut rappeler, première interprétation, que le même esprit qui agissait en Jésus il y a 2000 ans, ce même esprit agissait déjà au temps de Noé. Ainsi, la pensée de Pierre est de dire que Jésus, au travers de Noé, qui était animé et inspiré par le Saint-Esprit, prêchait de son temps et encourageait les gens à sortir de leur prison de l'incrédulité. C'est la première version, première interprétation. L'Esprit, Jésus prêchait par l'Esprit au travers de Noé et appelait les incrédules de son temps. Alors, en plus, on sait que Pierre, il aimait bien Noé. Dans la deuxième épître de Pierre, c'est lui qui va dire que Noé était un prédicateur de justice lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde entier. Donc en fait, Pierre se servait souvent de Noé pour interpeller les gens. Cette interprétation-là, cette compréhension-là, vous pourrez la lire dans une traduction qui s'appelle « Parole vivante » par un théologien qui s'appelle QN, et qui a écrit, qui a retranscrit le verset 19 par ces mots, « Par cet esprit ». Il avait déjà prêché autrefois aux hommes qui refusaient de croire et d'obéir à Dieu, alors que Dieu attendait patiemment leur conversion. Ils sont maintenant en prison, dans le séjour des morts, à cause de leur désobéissance. Eh oui, l'incrédulité, même s'il y a un vernis religieux, même si on va à l'église, l'incrédulité, c'est une question de cœur. Et quiconque s'enferme dans cette incrédulité s'enferme sur cette terre, mais s'enferme également en enfer. L'autre compréhension que l'on peut avoir de ce passage-là, c'est de dire que lorsque Jésus est mort à la croix, et que son corps est resté combien de jours au tombeau? 3 jours. Et ce qui est resté au tombeau, c'est son corps. Par l'Esprit, Jésus est allé annoncer la bonne nouvelle de sa mort et de sa résurrection aux esprits qui étaient prisonniers du séjour des morts. Voilà l'autre compréhension que l'on peut avoir, et ça c'est aussi confirmé par Éphésiens, chapitre 4, verset 8, là c'est par l'apôtre Paul, où il explique, « Étant monté en haut, il a emmené des captifs. » On retrouve la notion de gens qui sont prisonniers. Il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » s'il n'est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout en tous. Donc il y a bien cette notion que par l'esprit, Jésus est allé dans les lieux inférieurs avant d'être retourné dans les lieux célestes. Alors on aura l'occasion, je pense, prochainement, au prochain, de comprendre plus exactement, mais qui étaient ces gens qui étaient enfermés? Pourquoi est-ce qu'il est parlé du séjour des morts comme une prison, comme un enfermement? Mais on aura l'occasion de détailler ça la prochaine fois, et donc de préciser qui sont les captifs et qui sont les prisonniers du séjour des morts. Mais réalisons que ces deux lectures sont complètement complémentaires. C'est vrai, l'Esprit de Dieu agissait au travers de Noé, n'est-ce pas? C'est par l'Esprit de Dieu que Noé a prêché. C'est par l'Esprit de Dieu qu'il était convaincu de construire son bateau. C'est par l'Esprit de Dieu qu'il appelait les gens à se repentir. C'est par l'Esprit de Dieu qu'il disait aux gens, mais changez de comportement, cherchez à être agréable à Dieu. Et que ces gens étaient comme prisonniers de leur incrédulité. C'est vrai. Et c'est tout aussi vrai que l'Esprit de Dieu a annoncé l'œuvre de rédemption de la croix à ceux qui étaient prisonniers dans la mort. Si Pierre emploie l'exemple de Noé dans ce passage-là, dans la première épître, et qu'il va reparler de Pierre dans sa deuxième épître, c'est que Noé est un formidable exemple pour nous les chrétiens de persévérance, un peu de folie. Un homme qui est tout seul devant la majorité des gens et qui tient bon dans sa foi. Un homme qui s'attache à ce que Dieu a dit et qui ne se contente pas seulement d'entendre, mais qui la met en pratique tous les jours. Un homme qui ne s'est pas engagé que lui, mais qui a engagé toute sa famille dans un projet qui n'était pas seulement terrestre, mais qui était dans le plan de Dieu. Un homme qui avait la persévérance, malgré qu'aucune goutte d'eau ne tombe du ciel, il construisait son bateau inlassablement. C'est un exemple de persévérance, un exemple de foi. C'est un exemple de communion avec Dieu, c'est un exemple d'engagement. Et c'est également cette période avec Noé, c'est également un moyen aussi de rappeler aux gens qui vivent sans Dieu, qui ne se soucient pas beaucoup de lui, qui préfèrent vivre leur vie en chantant, en buvant, en mariant leurs enfants, en construisant maisons et systèmes, cherchant surtout à leur petit confort plus qu'à la volonté de Dieu, que leur incrédulité ne payera pas en finalité. Parce que tous ces gens-là qui font comme ils veulent, en finalité sont esclaves d'eux-mêmes, sont esclaves de leur propre incrédulité. Et devant Dieu, ce ne sont pas nos œuvres qui comptent. Ce ne sont pas nos heures de présence à l'église ou non qui comptent. Ce qui compte, c'est la foi. C'est la foi qui sauve. Parce qu'au milieu de ces gens-là, il y avait certainement des gens qui croyaient en Dieu. Mais combien se sont associés à l'œuvre de Dieu? Combien se sont engagés? Combien ont eu la foi de Noé? 8. Pas grand-chose. Noé, sa famille, la porte s'est refermée et le bateau a navigué. Et là aussi, c'est important de rappeler à nos amis qui nous entourent que ces gens ont eu vraiment le temps de rigoler. Ils ont vraiment eu le temps d'entendre Noé. Ils ont vraiment eu le temps de voir le bateau se construit. Ils ont eu le temps, de balabrer à la maison, de dire, oh là là, si c'est comme ci, si c'est comme ça, oh bah ceci, oh bah cela. Mais lorsque le déluge était venu, c'était trop tard. Et qu'il est important de faire des choix maintenant et ne pas les remettre à demain. Alors, qui dit Noé, dit, à quoi vous pensez quand on pense à Noé?
Arche de Noé.
Arche de Noé, par déluge, par le haut, et voilà. Et donc, si on en reprend à notre histoire de notre ami Pierre, il parle de Noé. Donc, qui parle de Noé? Il parle du déluge. Donc, il parle des eaux. Et ça, c'est le mot qui fait la connexion entre le verset 20 et le verset 21. Et il va nous parler. Quand on parle d'eau, on peut en penser à quoi? Au baptême. Voilà, vous avez l'esprit de Pierre en vous. Et voilà que Pierre, qui est en train de parler de Noé, pense au déluge. Qui dit déluge dit eau. Et qui dit eau, oh, mais cette eau-là, c'est comme le baptême. Et voilà qu'il est reparti sur un autre sujet. Alors, il nous précise bien que et c'est une courte définition, mais elle est tellement importante. Il nous rappelle que ce n'est pas le baptême qui sauve. Le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. Qu'est-ce qui peut nous purifier, dites-moi ? La repentance ? Le sang de Jésus ? La confession de nos péchés, croyant que effectivement le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est la foi qui sauve. C'est l'acte de repentance, de conversion. C'est ça qui sauve. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va dire. Ce n'est pas le baptême qui sauve, mais c'est Jésus ressuscité. C'est ce qu'il va dire à la fin du verset 21. Vous aussi, par la résurrection de Jésus. Et ce mot résurrection, Pierre parle de résurrection, et c'est ce petit mot qui va faire la connexion avec le verset 22. Parce que quand il parle de la résurrection de Jésus, tout de suite il dit « Ah ! Il est ressuscité et il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel. » Et que les anges et les autorités et les puissances lui ont été soumises. Là aussi, c'est intéressant de s'arrêter sur cette expression et ce sera notre dernier point de méditation sur ce passage un peu dense. Quand il écrit « Il est à la droite de Dieu », comprenons là que ce n'est pas une représentation au sens propre. Merci. C'est pas un tabou, c'est pas une photographie. Dieu est esprit. Où est la droite et la gauche d'un esprit? Comprenez? Mais, alors on a un peu perdu cette tradition et cette vision, mais la droite, être à la droite de quelqu'un, c'était un signe de confiance et c'était aussi un signe d'autorité. Nous avions l'autorité. On parle bien de la droite. On dit bien c'est le bras droit. Quand on dit de quelqu'un qu'il est le bras droit, on parle de quoi? On dit que c'est quelqu'un de confiance. C'est celui par qui on peut passer pour obtenir les faveurs de celui dont on parle. Et c'est exactement la même chose quand il est dit « il est assis à la droite de Dieu ». C'est pour symboliser que Christ est assis à un lieu privilégié et qu'il a reçu toute autorité, toute domination, tout pouvoir. Et que c'est Jésus, d'ailleurs il le dit après, qui a toute autorité sur les puissances qui lui sont soumises. Amen. Et puis après, Pierre continue sur la notion de la souffrance. Voilà, sur ce petit passage un peu compliqué, mais maintenant ce passage n'a plus aucun secret pour vous.